Journal de bord du capitaine. Nous venons d'atterrir sur la Lune après la destruction de la Terre. Moi et mon fidèle chien cyborg Laika 2 sommes les seuls survivants. Notre mission ? Explorer la Lune et rebâtir l'humanité à l'aide du Gage, le kit d'assemblage de Jardin d'Éden.
Ouf, ouf. Maître chef, vous croyez vraiment que c'est réaliste de croire qu'on peut rebâtir l'humanité avec ce matériel débile?
Laika 2, l'avenir de l'humanité est entre nos mains. Notre mission sacrée est celle de l'avenir de la race suprême, l'humain. Nous sommes les êtres supérieurs les plus intelligents de toute la galaxie. Nous réussissons et nous réussirons cette mission, même au péril de ta vie.
Hey, ouf, ouf!
Oui, Laika, chien fidèle, je ne reculerai devant aucun sacrifice de chien pour assurer la survie d'un être humain, car l'être humain est bien supérieur à toute autre forme de vie.
Ouf, ouf, pas surprenant que vous soyez tous entretués sur Terre.
Que dis-tu, Laika?
Ouf, ouf.
Ah, d'accord. Bon, voyons voir les instructions du KG. Prendre de la poudre de Jardin d'Éden concentrée. La voilà. Ajouter 1 litre de jus d'orange. Siroter et laisser reposer pendant 10 minutes. Ça alors, mais où trouver du jus d'orange sur la surface aride de la Lune?
Ouf, 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 ouf.
Ah, je ne vois qu'une seule solution. Ouf. Il va falloir sortir du vaisseau et parcourir la Lune pour trouver le litre de jus d'orange nécessaire pour le kit d'assemblage du Jardin d'Éden.
Ouf, 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 ouf.
Évidemment, étant donné qu'il ne reste plus qu'un seul costume d'astronaute, tu devras sacrifier ta vie pour cette mission.
Kai, 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 kai.
Ne t'en fais pas, je pourrai récupérer ta peau pour en faire un joli sac pour trimballer mes ordures. Tu seras pas mort en vain. Oh non, ne le crois pas.
Écoute bien, la ticasse. Les humains sur Terre, vous avez tellement de la misère à vous entendre ensemble que vous avez détruit la Terre. Nous autres, les chiens, on a toujours accompli les tâches ingrates sans jamais se plaindre. Cette fois, ça va faire. Si tu veux sortir, fine, mais ça va te faire tuer. Va donc te faire tuer tout seul.
Écoute bien, chien, esclave inférieur Laika. Tu as tes ordres? Des œufs doivent être cassés pour la réussite de la mission. Tu es destiné à faire partie de cette sublime omelette pour la gloire de l'humanité.
Ouf, ouf.
Ok, bon, maintenant, là, il ne faut surtout pas que tu ouvres le sas avant que tu ne m'aies attaché la bonbonne d'oxygène ici. Peux-tu l'attacher, Laika? S'il vous plaît?
Peut plus respirer.
Ouf. Bon, enfin débarrassé de cet humain prétentieux. Ok, Laika, c'est le temps de fêter ça. Allons se servir dans le fridge. Ah, tiens, un message sur la porte. Ce sont les ordres de mission. Tiens, lisons ça pour voir. Aujourd'hui, spécial jeu vidéo avec les acteurs importants du Festival Arcadia et Sylvie Tapp nous parle des nouvelles sorties en magasin. Nous aurons aussi un petit spécial No Life. Ah ben tiens, je regarde sur la porte du frigidaire puis tiens, on a du jus d'orange finalement.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah.
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Cause when you're not there, you know I can't wait. ain't the first time. I've caught you out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, vous êtes à Puissance Maximale, votre magazine ludique hebdomadaire avec François Gécouillard, Sébastien Léonard et on a même Sylvie Tapp qui est avec nous. Bonjour! Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Avec nos lunatiques préférés. Donc, on a beaucoup travaillé en fin de semaine, comme d'habitude, finalement. Et entre autres, aujourd'hui, ça va être un festival jeux vidéo, n'est-ce pas? Parce que un spécial jeux vidéo, parce qu'on est allé au festival Arcadia en fin de semaine, donc samedi, pour voir ce magnifique festival à la gloire du jeu vidéo.
Spécial Arcadia, juste pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'Arcadia, c'est le plus grand festival de jeux vidéo qui a lieu sûrement au Québec. En tout cas, ça, c'est une certitude au Québec.
Là. Et ça a lieu à Montréal.
Et ça a lieu à Montréal en plus. On y était juste le samedi parce qu'on a quand même une vie.
N'est-ce pas? Et dimanche, il y avait la parade des jouets, on ne peut pas manquer ça.
Non, exact.
Et peut-être pour parler un peu aux gens du festival Arcadia, il y avait toutes sortes de nouveautés, des jeux de vidéo qui n'étaient pas encore sortis en salle, dans les magasins.
Tout à fait.
Et qui ont présenté dont Assassin's Creed.
En fait, c'est certainement le meilleur lieu pour aller découvrir tout ce qui se fait de nouveau. Puis surtout, peut-être on pourrait peut-être commencer par parler de l'ambiance générale d'Arcadia, parce que je t'avoue que c'est déjà quelque chose. Pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est quand même une expérience en soi là, de se retrouver dans un lieu avec énormément de bruit, beaucoup, beaucoup de bruit. On est bombardé de tous bords, de tous côtés, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la musique qui est réutilisée à gauche ou à droite. Les animations des... qui était plus ou moins potable, et surtout une grosse sécurité. Je ne sais pas si tu as vu la sécurité qu'il y avait. Je pense que je me suis fait taper au moins 15 fois sur l'épaule pour me dire que mon sac à dos n'avait rien à faire dans ce lieu.
Oui.
Mais bon, ça fait partie
de la
game. C'est
très dangereux, les gays, quand ils peuvent tout pirater et tout briser.
Oui, je pense que c'est vraiment ça l'idée, là, c'est qu'ils avaient peur de leur dernière nouveauté, de se faire piquer. Et entre autres, tu as tout à fait raison de dire que parmi les grosses sorties, et en tout cas ce qui était présenté en primeur, il y avait Assassin's Creed par Ubisoft.
C'est ça, présenté par Ubisoft, il y avait une conférence sur la sortie, il y avait même des espèces de cubicules dans lesquels on pouvait avoir des démos. Un jeu qui n'est pas sorti encore, qui va sortir dans moins d'une semaine dans les magasins.
Exactement. Puis, il faut bien avouer qu'Ubisoft font toujours les choses en grand et puis ils ont fait les choses très, très bien cette fois-ci encore puisque les communiqués de presse et surtout la grosse machine de relationnistes de presse a été en marche, tellement bien en marche qu'ils faisaient la une du Mirror à Montréal, qu'ils étaient pratiquement partout et puis qu'on avait une foule mais immense, comme jamais on avait vu un stand pour aller voir une sortie de... nouveaux jeux. Entre autres, grosse surprise, en tout cas pour moi, c'est de voir que le phénomène peut aller jusqu'au game designer qui peut devenir comme une sorte de star. Imagine un petit peu, Sylvie, une queue immense de jeunes geeks qui étaient là pour se faire signer un poster par le game designer. Est-ce qu'on a déjà vu ça?
C'est incroyable.
C'est vraiment incroyable.
Ils ont fait la file pendant au moins une demi-heure ou une heure pour simplement avoir une signature sur leur poster d'Assassin's Creed.
C'est assez incroyable. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de mystères qui entouraient le jeu. Puis on a quand même réussi à intercepter au passage un des playtesters du jeu qui nous en a parlé. Puis on vous laisse tout de suite avec ce playtester qui vous raconte un petit peu ce à quoi ça ressemble. Tout de suite, je vous préviens tout de suite que l'enregistrement ressemble évidemment à l'ambiance de là-bas, c'est-à-dire extrêmement saturé en son.
Tellement grande, il y a tellement de choses à faire qu'on peut juste s'amuser avec le jeu, juste le free running sur les toits. Le parcours, comme on dit, le combat est incroyable. Il y a des mouvements de cinématiques de caméra sur tous les counters pour voir vraiment l'action des meilleurs points de vue possibles. Puis les AI, l'intelligence artificielle a des très bonnes réactions. Souvent, mettons, si on cause un problème dans une zone qui a beaucoup de chance, ça va créer une panique. Certains paniquent, d'autres vont vouloir plus essayer de combattre l'assassin. Mais ça, c'est tout à la liberté du joueur s'il veut être discret, silencieux, prendre son temps. Ou créer un tapage. Mais bien sûr, créer un tapage, c'est pas l'avantage d'un assassin. Il faut se rendre le plus près possible de notre cible sans qu'il nous ait vu. Un peu comme ils disent, c'est le blade in the crowd, c'est la lame dans la foule. C'est à la dernière instance, sa cible sait que c'est terminé.
Est-ce que tu penses qu'avec ce jeu-là, Ubisoft a créé un nouveau type de jeu ou ça reste
Classique? C'est C'est, selon moi, c'est un nouveau style, parce que souvent on a dit aussi que c'était le premier vraiment jeu le plus next-gen qui correspond à la, autrement dit, nouvelle console. Il y a tellement d'éléments qui ont été faits, d'ailleurs ça a pris 4 ans, puis beaucoup de ressources pour développer. Juste le free running, les méthodes de combat, puis le principe qui est derrière Assassin, un petit peu la conspiration si on veut. Je crois que les joueurs vont être très satisfaits, puis ils vont trouver ça très différent.
Est-ce que c'est une nouvelle plateforme, complètement nouvelle pour ça?
Non, l'engin a été construit à partir de rien. De ground up, c'est in-house, ça a été fait à Montréal.
On a vraiment hâte. Tout ça, vous l'essayez, ça
sort le 15 novembre. Donc dans quelques jours, oui.
J'imagine que même si c'est dans le sud, ce qui sort bien chez Ubisoft à part Assassin, c'est quoi?
Ah, il y a. Bon, en ce moment, on travaille sur une suite à Rainbow Six Vegas. Donc, Bishop s'en vient. Il y a bien sûr Splinter Cell Conviction qui va être incroyable. Lui aussi, on a poussé la note avec un système de foule. Puis Sam Fisher, on va avoir un angle beaucoup différent sur le personnage. On apprend mieux à le connaître. Et aussi, quoi d'autre qui s'en vient? Bishop Conviction. Il y a Lost qu'on travaille dessus en ce moment qui va être assez incroyable. J'ai vu les gens qui ont ramassé sur l'équipe. Puis c'est un peu des fans de l'émission. Donc, je suis pas mal sûr que, comme Naruto, ça va être très près de. Est-ce que les fans s'attendent?
Donc, Assassin's Creed, un jeu très intéressant. Sinon, il y a aussi le stand de Beenox, Activision plus précisément, qui était là pour présenter, entre autres, Call of Duty 4, si je ne me trompe pas.
Exactement, Call of Duty 4. Et puis, je t'avoue que c'était un des stands les plus familiaux aussi, là, puisqu'il sortait justement le nouveau film, le nouveau jeu à partir du film B-Movie, qui est un jeu pour beaucoup plus jeunes. J'étais en plus avec une petite famille à l'époque, et ça a été évidemment le choix d'Erika, une petite fille de 4 ans qui s'est jetée sur le jeu. On rencontrait en fait le game designer d'Ubisoft sur place.
Et juste pour dire aux gens, c'est intéressant ce stand-là. Je pense que c'était même le plus beau de tout le festival. C'est-à-dire qu'il y avait deux tentes militaires dans lesquelles c'était une espèce de tente camo. Et sous ces tentes-là, il y avait 4 ordinateurs en réseau. Et la tente 1 se battait contre la tente 2. Donc, il y avait 2 tentes et chaque équipe s'opposait dans leur tente respective camo. Je trouvais que c'était un beau setting.
Oui, tout à fait. Puis on rencontrait justement le game designer de Binox qui nous parlait justement des dernières sorties puis de comment ça se passe chez Binox.
Donc, sur la scène actuellement, on a B-Movie qu'on a sorti la semaine dernière pour en même temps que le film B-Movie. Donc, on a aussi d'autres jeux d'Activision. On a Spider-Man, Friend or Foe. On a le dernier Tony Hawk. Puis aussi, on a bien sûr un gros hit, Guitar Hero 3, Legends of Rock.
Et
aussi,
on a... Tout le monde s'arrache, que tout le monde va dire pas
c'est, ouais. C'est une chose ravissée actuellement, c'est Call of Duty 4, le dernier, Modern Warfare. Donc, ça pogne pas mal. Puis bien sûr aussi, on est là pour faire du recrutement.
L'une des caractéristiques de Binox, c'est quand même de sortir des jeux en français. Est-ce qu'ils sont tous en français,
si vous vous en parlez? Oui, actuellement, Activision a quand même une politique de sortir vraiment tous les jeux en français. Donc, B-Movie, ça a été traduit en France, tout ça, puis actuellement, il est en français sur place.
J'imagine que vous l'avez sorti pour toutes les consoles possibles et imaginables.
Presque. Chez Binox, on a fait la version Xbox 360, la version PS2, tandis qu'on a eu un support d'un studio de Salt Lake City pour la version Wii. Puis les versions portables ont été faites chez Vicarious Vision aux États-Unis.
Est-ce que tu travailles juste à la com ou à la programmation ou dans d'autres...
Je suis game designer.
T'es quoi?
Game designer.
Ah, t'es game designer?
Oui.
C'est encore plus passionnant, c'est génial.
C'est un
très... Tu travaillais sur B-Movie?
Oui, absolument. Ouais. Donc, j'ai travaillé sur le titre de game designer puis aussi de level designer. Donc, on a fait l'histoire, on a monté le scénario et ainsi de suite.
Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne à la merde, ça, game designer pour Binox.
Ça commence, c'est sûr que bon, dans le cadre de B-Movie, on reçoit une histoire, donc après ça, on essaie d'isoler les moments où on pourrait faire des niveaux intéressants. Ensuite, il y a discussion avec l'équipe de design, donc comment qu'on monte le jeu pour qu'il y ait des points communs entre les différents niveaux. Puis, éventuellement, c'est en tout cas au fur et à mesure, à travers les mois, on sort des idées, on les met en ordre, on en coupe, on en crée des nouvelles, puis c'est un travail itératif jusqu'à temps qu'on ait le jeu final.
J'imagine que c'est une grosse équipe de travail, ça.
Oui, absolument. Dans le cas de B-Movie, c'est environ 80 personnes.
Cool comme jeu quand même, comme setting. Mais justement, on en a parlé brièvement, mais le gros hit, c'était Guitar Hero 3, définitivement. Il y avait des écrans de ce jeu-là partout. Tout le monde jouait à Guitar Hero 3. Il y avait même un stade où les gens devaient se déguiser pour aller jouer avec leur guitare pendant qu'ils étaient filmés. Puis même, je pense que les vidéos de ces prestations-là étaient ensuite expédiées aux participants.
Tout à fait. C'était en fait le stand de Vidéotron. un petit peu au cœur de toute l'animation, qui proposait non seulement des LAN, disons des LAN, des compétitions en LAN sur différents types de jeux avec beaucoup de concours, mais aussi justement cette petite scène où on pouvait jouer à Guitar Hero déguisé. Et puis je pense même que les bandes vidéo sont envoyées sur le site de Vidéotron pour faire les meilleurs moments de Guitar Hero.
Il y avait même une vingtaine de jeux sur cellulaire. Hein?
Tout à fait. D'ailleurs, on est allé rencontrer les messieurs et les madames de Vidéotron, puis on leur a demandé un petit peu ce qu'ils présentaient, puis ça fait partie de la prochaine entrevue.
En fait, on a un LAN qui est un jeu en réseau. On a un animateur. Donc, on fait plusieurs jeux, plusieurs compétitions, plein de prix à gagner. On a une journée pour deux, une visite chez Ubisoft. On a deux Nintendo DS à donner pendant la fin de semaine. Ça, c'est pour la division PC. On donne plein de jeux aussi, des Orange Box. On a une division aussi Gameloft, qui est un fabricant de jeux sur sans fil. Donc, on a des jeux sur sans fil. On fait aussi des compétitions sur les sans fil à toutes les deux heures. Et puis, on a Guitar Hero, où est-ce qu'on filme les gens habillés en Rockstar. Ils vont jouer leur tune. Puis on fait un petit montage avec la toune. Puis ça va se retrouver sur Internet. On leur envoie le lien le lendemain matin. Ils peuvent aller chercher leur vidéo puis envoyer ça à leurs amis. Et ils vont pouvoir passer même sur Illico ou sur Vox TV à Vidéotron.
Apparemment, vous occupez aussi de l'aspect technique là, de tout ce qui se passe là.
C'est-à-dire que, évidemment, Arcadia est propulsé par Vidéotron. Toute la Internet et tout ça est propulsé par Vidéotron.
C'est-tu ton premier Arcadia?
C'est mon deuxième Arcadia.
Qu'est-ce que tu penses de la progression?
J'ai adoré. Je trouve que la scène, je trouve que c'est plus grandiose que l'année passée. C'est un pas en avant. Avec la régie, je trouve que tout est mieux placé. L'année passée, je pense que le LAN qui était là pendant toute la fin de semaine prenait beaucoup d'espace, était fermé un peu aux gens. Tandis que là, c'est ouvert à tout le monde. On a PlayStation aussi qui est là cette année. Je pense que ça amène encore plus d'engouement.
Est-ce que c'était déjà autant bruyant l'année dernière?
Oui, c'est un endroit très bruyant toute la fin de semaine. Ouais. C'est très cacophonique avec tous les stands. Les jeux, il faut avoir le son hein, quand on veut bien jouer.
Je pense que c'est fatigué au bout des trois jours. Les trois jours du
début à la fin. Oui, c'est assez exigeant, mais ça fait partie des événements.
T'es-tu un gamer toi-même?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Qu'est-ce que tu penses du phénomène des gamers, justement, avec le recul que tu as de non-gamer?
Je trouve que c'est un bel engouement. De plus en plus de jeux qui sont intéressants, très violents aussi, mais quand même, c'est assez rassembleur le fait que ça soit en live ou ça devienne une communauté.
Est-ce que c'est pour ça que tu joues pas, justement? Donc, l'équipe de Vidéotron qui s'occupait que tout fonctionne bien, on les salue. Ils ont voulu répondre à nos questions. Sinon, il y avait une clique là, de jeunes femmes qui jouaient aux jeux vidéo. Hein.
Donc, oui.
On a rencontré Miss France.
Miss France. Pas tout à fait Miss France.
En tout cas, Miss Video Game France.
Tout à fait. On a gardé en fait le meilleur pour la fin parce qu'il est organisé par, je ne sais plus comment s'appelle la compagnie, ça s'appelle Titan Gaming, c'est ça. Qui est organisé par Titan Gaming, il s'agissait de Miss Video Game. Que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir si vous avez Internet devant vous.
Je pense
taper
que les compagnies font des gros efforts pour attirer les filles dans les jeux vidéo.
Exactement.
En fait.
C'est pour mettre en évidence cette nouvelle réalité, justement, qu'il existe des femmes qui jouent aux jeux vidéo. Entre autres, on en a une avec nous.
Bien sûr.
Exactement. Bien. Et puis, si ce n'est que là-bas, bien, il s'agissait d'une compétition qui mettait en évidence d'abord le côté physique des madames pour les présélectionner, 50 présélections à travers le monde, et enfin leur capacité à pouvoir jouer à certains types de jeux. Entre autres, cette année, c'était Counter-Strike. Et évidemment, il y avait 5 finalistes, et c'est sur ces 5 finalistes, il y avait 4 états-uniennes et une française. Et évidemment, pour qui on a pris, nous? Pour la française, c'est évident.
J'arrive pas à comprendre.
Et évidemment, on est allé évidemment l'interviewer, et puis on vous laisse avec elle. Il s'agit d'Hélène Bronek, alias Lady Lara.
Alors, je m'appelle Hélène.
C'est juste Hélène.
Hélène Bronek, mon nom de famille.
Tu viens de quelle partie de la France exactement?
J'habite en Bretagne.
T'habites en Bretagne?
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que t'es une vraie gameuse?
Oui.
Ouais.
Oui, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je joue à pas mal de jeux et 5 ans que je joue à mon jeu préféré qui est Counter-Strike.
D'accord, ça fait 5 ans que tu joues à Counter-Strike?
Oui.
Dis-moi, être une fille dans un milieu d'hommes, ça fait quoi exactement?
Bah, au départ, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais il y a beaucoup de filles cette année qui se présentent aussi en tant qu'équipe féminine au niveau de Counter-Strike en France. Et ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année, et c'est ça qui est vraiment bien.
Est-ce qu'on peut dire que toi, t'es une championne de Counter-Strike? Des compétitions, as-tu participé à des choses?
Oui, j'ai déjà fait la Coupe de France avec mon équipe et là cette année on va refaire ceci pour essayer d'essayer d'aller en Coupe du Monde cette année.
Ah, super.
Oui.
Et moi, t'as une grosse équipe, c'est combien de personnes?
On est 5 filles plus un coach. Donc d'ailleurs je leur fais un petit coucou à notre équipe, c'est BTR, et à notre sponsor qui nous soutient, COS. Voilà, et donc avec cette équipe là. Oui, juste des filles. En fait, c'est un clan multigaming en France qui regroupe donc pas mal d'équipes. Une équipe Counter-Strike féminine, une équipe Counter-Strike masculine et plusieurs jeux comme Call of Duty, Day of Defeat, Trackmania, des choses comme ça.
Et comment ça se fait? Pourquoi en fait les filles sont séparées des gars dans les jeux vidéo games? Ça paraît presque absurde.
C'est parce que je pense que déjà, comme il y a beaucoup plus de garçons qui jouent à ces jeux vidéo, forcément le niveau est plus élevé et c'est beaucoup plus difficile aussi d'atteindre les championnats de France quand on est une fille si on était avec les hommes aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait deux disciplines différentes pour qu'on puisse aussi nous avoir la chance d'intégrer des grosses équipes et d'aller le plus loin possible au niveau de la Coupe du Monde. Après c'est vrai que les gains ne sont pas toujours identiques parce que c'est beaucoup plus dur pour un homme d'accéder au championnat du monde que pour une fille.
Et là aujourd'hui, là, tu représentes je ne sais pas si tu représentes une compagnie, mais tu fais partie finalement d'un lot de demoiselles qui viennent représenter les Miss Video Game 2007, puisqu'on est en 2007.
Oui.
Vous avez été recrutées comment?
En fait, ça s'est passé en France. Il y a une amie qui m'avait fait part de ce concours-là, qui est un concours international. Donc c'est vrai qu'à la base, donc, avec une copine, on s'était inscrite. Et par rapport à ça, j'avais pas trop suivi le mouvement, mais au départ, on était à peu près 500 participantes. Et il y en a 50 qui ont été retenues par rapport au vote sur Internet. Et c'est vrai que j'avais pas mal d'amis qui avaient voté pour moi, mais j'avais sans grande conviction en fait, d'être sélectionnée au second tour. Et par rapport à ça, donc on m'a appelée en avril en me disant que j'avais été sélectionnée. Et ensuite, ils choisiraient 5 finalistes qui devaient se battre en fait, entre guillemets, sur un tournoi en ligne. Et comme par chance, en fait, c'est tombé sur Counter-Strike, mon jeu favori. Donc du coup, vu que les 50 sélectionnés ne jouaient pas toutes à ce jeu-là, ça a été assez facile en fait, d'accéder à la finale.
Donc si je comprends bien, là, vous n'avez pas été sélectionnée sur votre physique?
En premier lieu, oui, par les votes.
Ok, d'accord. D'abord le physique, puis après le jeu.
Voilà.
C'est vraiment intéressant. Puis là, aujourd'hui, vous allez vous rencontrer pour jouer, uniquement
oui.
Pour jouer.
Alors là, on va se défendre sur 5 jeux différents. On a déjà fait 2 compétitions hier, une sur Mario Kart, une sur Counter-Strike. Et aujourd'hui, on va faire Guitar Hero, Brain Age 2. Et demain, on fera également une compétition Racing Challenge.
Waouh, c'est vraiment beaucoup de jeux en une seule fois, là,
oui.
Une seule journée.
Bah, surtout qu'on a vraiment toute une chance de gagner du fait que ce ne sont pas nos jeux favoris, entre guillemets. Donc forcément, on ne sait pas qui c'est qui va gagner.
Et peut-être ton sentiment par rapport à l'événement et puis par rapport au concours en tant que tel, tu te sens comment par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui là?
Bah, c'est vrai que hier je me sentais plus à l'aise parce que les deux jeux qu'on a fait, c'était des jeux que j'avais déjà essayés. Donc j'ai réussi à finir 3e pour Mario Kart et 2e pour Counter-Strike. C'est vrai que là, les jeux Guitar Hero, Brain Age 2 et Racing Challenge, c'est des jeux que j'ai jamais testés pour l'instant. Donc à mon avis, je vais avoir peut-être un peu plus de mal, mais bon.
Peut-être que je vais aller sur une question un peu plus personnelle. Tu joues combien d'heures par semaine à peu près?
Je travaille beaucoup déjà. Je suis ingénieur. Donc je travaille en qualité production chez Thales.
Ah oui.
Oui. Voilà, et donc tout le temps libre en fait que j'ai la plupart du temps je le passe à mes jeux vidéo pour mon équipe, pour le management, le marketing, etc., recherche de sponsors et aussi pour le jeu, l'entraînement. Donc on va dire je pense passer autant de temps au travail qu'à jouer aux jeux vidéo par semaine.
Okay. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de l'espèce de mouvement? Ben, c'est juste en Europe parce que c'est beaucoup plus faible, mais le mouvement No Life.
Je me considérerais pas comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qu'on considère no life parce qu'ils passent leur temps justement à jouer aux jeux vidéo. Moi je considère que c'est pour moi un moyen de s'évader plutôt après le travail, un moyen de s'amuser et de se faire plaisir. Mais c'est vrai que bon, s'il y a une soirée où je dois sortir ou je pars en week-end, c'est pas pour ça que je vais rester pour mon jeu. Je sais faire la part des choses.
Je peux te certifier que t'as pas du tout l'air de no life. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc, tout ce que vous venez d'entendre pendant les 15 dernières minutes, c'était tiré du Festival Arcadia cette fin de semaine. Puissance maximale y était. Sinon, il y a un dernier jeu peut-être que tu aimerais dire quelques
mots. Très rapidement, en effet, parce que là, on commence à être un petit peu à la traîne.
À l'arrache.
SingStar, le fameux jeu où vous... c'est une sorte de karaoké, finalement, mais c'est extraordinaire l'engouement des geeks pour un karaoké. Hein. Ça ressemble à Guitar Hero, en gros, là, c'est-à-dire qu'il faut essayer de suivre la mélodie puis les changements de ton. Puis ça fonctionne à mort. Là, on avait du monde qui rentrait sur la scène et puis on avait l'impression enfin qu'il allait pouvoir devenir des stars. Stars d'un jour, stars d'un soir.
Moi, ils avaient l'impression dans leur tête que c'était une star. Et comme ça, tu pouvais fausser devant tout le monde et puis ça dérangeait absolument personne.
Et oui, et là, on est passé tout de suite au...
No Life.
Au quiz.
Ah, au quiz. Donc, on fait tirer cette semaine le jeu Jam Session offert par Ubisoft. Donc, c'est un jeu qui se joue sur la Nintendo DS et vous pouvez chanter et jouer de la guitare. Donc, c'est un jeu de musique. On joue de la guitare et on peut chanter. Donc, 529-90-26, vous avez juste à nommer le nom du premier chien qui s'appelait Laika qui s'est rendu sur la Lune. Donc, nommez-le 529-90-26 et vous allez gagner le prix. Sinon, Sébastien, on se dirige vers un reportage sur les No Life.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Oranda, j'écoute Puissance Maximale.
Qu'on les appelle Hardcore Gamer, No Life, ou tout simplement qu'on ne les appelle pas parce que de toute façon, ils ne répondent pas au téléphone, cette catégorie de joueurs fait parler d'elle en ce moment. Comme tous les mouvements qui tournent à l'obsession, c'est un phénomène qui fascine et qui effraie en même temps. Mais qu'est-ce qu'un no-life ? Même s'il n'en existe pas de définition précise, les no-life ont en commun une dépendance marquée aux jeux vidéo et en particulier à cette catégorie bien précise qui correspond aux jeux de réseau massivement multijoueurs. L'exemple le plus flagrant est World of Warcraft. Quand le jeu tourne à l'obsession, les conséquences sont souvent désastreuses. Pour bien comprendre le phénomène, nous sommes allés rencontrer Bertrand, un vrai joueur qui a accepté de se faire suivre pendant 24 heures. À 10 heures, Bertrand se lève. À peine réveillé, il se jette sur son ordinateur pour connaître les dernières nouvelles de sa vie. Il est 11h30 lorsque Bertrand sort de sa chambre. Il y a 2 ans, il a laissé tomber son travail.
J'ai monté une ligue. Ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Puis je me suis occupé de tous les trucs à faire, là, le recrutement, tout le monde. Puis ça s'est vraiment bien organisé. Puis ouais, ça tourne.
Il faut dire qu'il s'occupait de la gestion du personnel dans une grosse compagnie montréalaise.
Je lui fais passer une entrevue. Pour connaître leur motivation, ce pourquoi ils veulent faire ça. Puis je mets un point d'honneur pour qu'il y ait un esprit d'équipe, que ça soit solide, puis que le monde se tienne comme il faut.
Il vit de l'aide sociale.
Au début, je jouais 3-4 heures par jour, puis j'ai ouvert la ligue. Puis ça s'est mis à monter vraiment de plus en plus. J'avais de moins en moins de temps. Il fallait que je fasse un choix, puis j'avais plus de temps pour... Le travail prenait vraiment trop de place, fait que bon, j'ai été obligé de faire un choix.
Au fur et à mesure de la conversation, il est de plus en plus difficile de capter son attention. Et alors qu'il a les yeux plongés dans un bol de céréales, il nous raconte qu'il a une vie sociale très chargée.
Ah oui, ok. Ouais, j'ai un bon réseau, là, pas mal d'amis. Vraiment une vie sociale, vraiment active. Pas mal de monde, on se tient fort sur Internet, là, ça roule. Puis on communique vraiment tous les jours, là, puisque faut que ça tourne. Puis on est proche.
Il y a un mois, sa blonde est partie. Nous le laissons jouer enfin, car de toute manière, il n'est plus du tout avec nous.
Je fais vraiment attention pour m'hydrater, parce que ça compte, là. T'sais, c'est comme... je me sens mieux quand je suis hydraté. Puis il faut pas oublier aussi l'accident qui a tué un joueur de Nintendo qui avait pas uriné depuis 2 jours à peu près. Hein. Fait que j'ai trouvé un truc comme ça, je suis sûr. Je programme mon réveil.
Quand on lui demande comment il voit sa vie future, voilà ce qu'il nous répond.
Ouais, j'en ai pour 2 minutes là, puis j'arrive, ça avance. Ouais. J'arrive. C'est pas long.
Il est minuit quand on le quitte. En tout, c'est plus de 14 heures de jeu en ligne qui auront occupé sa journée. Les yeux rouges et bouffis, l'œil hagard, Bertrand nous fait un signe de la main pour nous dire au revoir. World of Warcraft représente 13 millions de joueurs dans le monde. Tous ne sont pas comme Bertrand. En 2005, 2 joueurs ont été internés en psychiatrie en France. Alors, faut-il avoir peur des jeux online?
Oh là 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 là, un reportage choc de puissance maximale. Et nous avons en ligne avec nous Nagali Dufour, la professeure de l'Université de Sherbrooke, qui fait une étude sur les toxicomanes. Donc bonjour Madame Dufour.
Bonjour.
Donc bienvenue à puissance maximale.
Merci.
Oui, Madame Dufour, vous êtes donc en toxicologie, c'est ça exactement?
En toxicomanie, c'est-à-dire je travaille sur la dépendance, je travaille auprès de gens qui ont des problèmes d'alcool, de drogue ou encore de jeux pathologiques. Et quand on parle de jeux, habituellement, on va parler de jeux de hasard et d'argent.
Oui, parfait. Dites-moi, est-ce que le phénomène justement qui est relié à la dépendance des joueurs de jeux en réseau, est-ce que c'est une réalité?
En fait, scientifiquement, elle est assez peu documentée. On sait que certains cliniciens nous ont parlé qu'ils ont rencontré des jeunes, particulièrement des adolescents ou de jeunes adultes, qui disent que ces jeux leur posent des problèmes dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le contrôle de leurs habitudes. Mais au niveau scientifique, on a assez peu de données. On n'a pas d'idée hein, quelle est l'ampleur du phénomène.
C'est ça, vous ne voyez pas une augmentation du problème ou...
En fait, on ne peut pas se dire qu'on parle d'augmentation d'émissions parce qu'on n'a même pas de données de base. Pour ça, il faudrait faire une étude dans la population au général, dans la population au complet. Et c'est très, et ça n'a jamais été fait pour ce type de jeu-là. Et ce qui est plus difficile, c'est qu'aussi, personne dans la littérature scientifique s'entend sur qu'est-ce que la dépendance à ces jeux-là. Et ça n'a pas été bien défini encore.
En effet, en fait, c'est là où se trouve le nœud du problème, c'est que tout simplement, on n'est pas tout à fait capable de savoir c'est quoi exactement les symptômes qui sont reliés à ce type-là de dépendance, c'est ça?
Exactement. En fait, ce qui est très difficile, c'est de savoir quelle est la différence entre une passion et une dépendance. Quand on va tenter de faire la différence, parce qu'on a tous des loisirs, et à quel moment ces loisirs-là deviennent-ils problématiques dans notre vie? En fait, ce qu'on peut voir, c'est que la dépendance au jeu, on pourrait la définir un petit peu comme lorsque la personne commence à devenir obsédée, lorsqu'elle perd contrôle de son comportement, et ça c'est très important, lorsque ce comportement-là lui pose problème dans sa vie, lorsqu'il amène des conséquences négatives qui sont significatives. Par exemple, lorsque quelqu'un commence à négliger ses proches ou son travail parce qu'elle passe trop de temps à jouer, on peut penser à ce moment-là qu'elle commence peut-être à développer une problématique.
Dites-moi, est-ce qu'au Québec, on a déjà répertorié des cas qui allaient jusqu'à un internement psychiatrique lié à l'abus de jeux vidéo?
Ce serait très difficile de vous répondre puisque pour les gens qui demandent des soins, on n'a pas un répertoire qui dise pourquoi ils sont rentrés. Donc, il faudrait faire un répertoire de tous les psychiatres et qui disent exactement tout ce que leurs patients ont. Par contre, il y a des psychiatres en France qui ont écrit sur ce phénomène-là et il y a des gens qui ont demandé d'avoir des soins à l'interne. Donc, on sait, par exemple, le psychiatre, le docteur Valeur, a écrit sur la dépendance au jeu, qui commence un peu à décrire. Mais habituellement, les gens qui vont dire qu'ils ont ce problème-là vont plutôt demander des soins à l'externe, donc des soins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, soit en privé ou dans un centre. Mais c'est très rare des gens qui demandent l'interne.
Dites-moi, est-ce que, par exemple, j'ai un proche ou tout simplement j'ai un fils, ça peut être le cas d'un parent, par exemple, qui commence à s'inquiéter puis qui se pose des questions par rapport à l'utilisation que fait son fils ou son proche des jeux vidéo, surtout en réseau. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des choses à faire?
À vrai dire, on peut regarder beaucoup quelles sont les conséquences. Est-ce que la personne, vous trouvez qu'elle néglige? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est obsédée, donc qu'elle ne pense qu'à ça? Est-ce qu'il y a encore des loisirs qui sont faits si vous avez un jeune? Est-ce qu'il continue à faire son sport? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans sa vie autres que le jeu? On peut aussi penser à regarder est-ce que la personne se néglige corporellement? Donc, est-ce qu'elle a le temps de manger? Est-ce qu'elle dort suffisamment? Est-ce qu'elle prend le temps même de se rendre au travail ou à l'école? Donc, quelles sont les conséquences? Et si on commence à s'inquiéter, on peut commencer à lui en parler, surtout si on est un parent. On a des responsabilités au niveau de l'encadrement des activités sociales et je pense qu'il faut mettre parfois des limites et un nombre de temps maximum qu'un jeune peut passer sur ce type de jeu-là. Il y a un grand pouvoir, en tout cas, qui permet aux jeunes de se concentrer et c'est très, très, très agréable pour eux. Donc, je pense que ça veut pouvoir, on pourrait dire, ça pourrait être à la limite dangereux parce qu'on perd la notion rapidement du temps.
Oui, tout à fait. Dites-moi, est-ce qu'il existe à l'heure actuelle au Québec ou peut-être même sur Internet ou ailleurs des moyens de se renseigner ou peut-être même d'avoir de l'aide?
Au niveau de l'aide, si la personne a en plus de son jeu, par exemple, un problème au niveau de la consommation ou le parent est inquiet de la consommation du jeune et de son utilisation des jeux, on peut appeler la ligne drogue aide et référence. Et il y a des services gratuits dans toutes les régions du Québec. Sinon, il faut aller voir en privé. On peut penser à des psychologues ou des travailleurs sociaux ou des thérapeutes qui travaillent les dépendances. Et habituellement, ils ont des racines communes, ces problèmes-là. Et quelqu'un qui est spécialisé en dépendance pourrait sûrement aider soit l'adulte ou le jeune adulte qui est aux prises avec ce problème-là ou qui est aux prises avec cette perte de contrôle-là qui l'inquiète.
Madame Dufour, merci beaucoup pour cette entrevue.
C'est moi qui vous remercie.
On parlait avec Madame Dufour, professeure à l'Université de Sherbrooke au service de toxicomanie.
Et sinon, on se dirige vers encore plus de jeux vidéo avec Sylvie Tapp. Vous écoutez Puissance Maximale.
C'est ma... Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale.
Donc, bonjour Sylvie. Dis-moi, tu viens nous parler encore de jeux vidéo.
Oui, c'est une émission très centrée sur le vidéo. Hein? Je me sens dans mon élément naturel. C'est ma petite musique d'intro, ça, on dirait.
Oui, je te l'ai choisie particulièrement pour toi. Je sens qu'elle représente.
C'est le cri de Jean-Jean.
Très adapté.
Le cri d'accouplement de Jean-Jean.
Écoute, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, je me demande s'il y a encore quelque chose que je puisse ajouter. Je voulais juste peut-être faire un petit retour sur le fameux Orange Box, parce que lors de ma dernière chronique, on avait parlé de l'épisode 2. J'étais très emballée, j'espérais que ça durerait trop longtemps. Et ce que je ne savais pas, c'est que juste avant de venir à la chronique, j'étais rendue à la bataille finale. Donc, c'est très court, encore une fois, mais mon Dieu, quel jeu! On voudrait que ça finisse jamais. Half-Life doit demeurer quand même un des meilleurs.
Mais c'est quoi Orange Box, exactement?
Orange Box, c'est une espèce de... j'allais dire Valve, mais enfin, ils sont très centrés sur le fameux petit package. J'en ai parlé lors de ma dernière chronique aussi. C'est comme ça, c'est une boîte, jeux, un bundle de jeux où ils ont inclus Half-Life Source, Half-Life 2, épisode 1, épisode 2, le jeu en ligne aussi. Alors bon, quand tu achètes l'Orange Box, tu as tout le package, mais ils offraient la possibilité de donner les jeux que tu avais déjà à des amis que tu pré-identifies lorsque c'est acheté par Steam. En tout cas, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit le cas si tu achètes la boîte en tablette, là, mais quand c'est acheté par Steam, il donnait la possibilité, si tu avais déjà, par exemple, Half-Life 2, de pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre.
OK, ça, c'est bien, ça, quand même.
Et puis, tu m'avais donné une petite question sur Portal. À l'époque, je ne l'avais pas essayé. Portail, en tout cas. Et bon, je l'ai fait tout au complet depuis ce temps. J'ai le goût de dire, Portal, c'est comme... Vous croyez être du genre de personne qui pense pouvoir se sortir de n'importe quelle situation dans la mesure où on vous donne un minimum d'outils. Essayez ça, c'est fantastique. C'est un challenge pour la logique.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est ça. C'est un espèce de jeu qui est fait comme un 3D shooter, mais il n'y a aucun ennemi, je pense. Il n'y a pas d'armes à feu. C'est simplement un espèce de d'engin que tu as dans les mains qui sert à créer des portails.
Exactement. D'un côté, tu peux le portail d'entrée, le portail de sortie, ça te permet de te déplacer d'un endroit à l'autre instantanément.
Donc, un jeu de puzzle. Là.
Oui, je dirais que plus tu avances dans les tests et plus ça devient difficile. Et la beauté du jeu, c'est qu'à un moment donné, tu es arrivé comme à la fin du test, entre guillemets, de la compagnie. Et puis là, tu as la possibilité de terminer le jeu-là parce que tu te fais ébouillanter. En fait, on t'envoie dans un bain de feu.
Quoi, la fin du jeu, il te met bouillante?
Oui, normalement, ce serait la fin de ton test en tant que rôle, là, mais tu as la possibilité à partir de là de dire « Ah ben non, moi je regrette, là, mais je vais sortir de là. » Et puis c'est là où le fun commence, parce qu'après c'est là où ça devient difficile, tu es laissé à toi-même et tu dois trouver la sortie avec toutes sortes de pense-pense, puis c'est là où on commence à avoir des robots qui te tirent dessus, puis... Très amusant. Ça a été un challenge pour ma logique et j'ai bien aimé. D'ailleurs, Valve, depuis le 7 novembre, Valve Source Software Development Kit a rendu disponible les outils qui permettent à créer des maps pour Portal. Donc, pour ceux qui aiment créer, on n'a pas fini d'avoir des maps pour Portal qui vont apparaître. Et puis, je voulais dire un petit mot aussi sur Time Shift qui vient de sortir. Time Shift, qui est un jeu qui est développé par Sierra.
Time Shift, c'est quoi ça exactement?
Time Shift, bon, je viens de le commencer, je suis en train de le jouer. Et puis, en fait, c'est un jeu, un first-person shooter, encore une fois. Je suis une adepte des FPS. Ah, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, la différence entre les gameuses comme moi et les gameuses online. Tu sais que nous, on est low profile. Hein? On n'entend pas parler de nous, on ne fait pas nécessairement des grosses batailles, mais c'est plus pour les gens qui, comme moi, aiment jouer en solitaire. En fait, Time Shift, c'est un first-person shooter comme ça, où ton rôle est de tirer dans le tas et on te donne la possibilité. Ce qui est un peu amusant et différent, c'est qu'on te donne la possibilité de ralentir, arrêter ou reculer dans le temps.
Okay.
C'est un peu ton espèce de beta suit que tu portes qui te donne cette opportunité-là.
Dis-moi juste, Sylvie, là, ça ressemble un petit peu alors à Prince of Persia, si je m'abuse.
Oui,
seulement
dans la mesure où tu peux jouer un peu dans le temps, parce que sinon, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout le même décor, c'est pas du tout la même façon de les mêmes batailles, les mêmes armes.
Justement, c'est quoi le contexte peut-être du jeu? Est-ce que c'est des méchants extraterrestres? C'est quoi?
Non, ça semble être tous des soldats. Écoute, à date, c'est simplement...
C'est confus. C'est peut-être...
C'est confus parce que c'est
comme... beaucoup de shooters, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est simplement de la baston.
C'était mon commentaire, en fait. C'est très intéressant, cette histoire de jouer dans le temps. Mais bon, selon certains, c'est un jeu qui révolutionne le monde du vidéo par rapport à cette possibilité. Mais les avis sont partagés. Moi, je le trouve amusant, mais c'est un peu comme BioShock, en fait, où j'avais fait le commentaire que c'est pas vraiment à se jeter à terre. C'est beaucoup de la médiatisation, mais bon, en fait, c'est très ordinaire comme jeu. Graphiquement, très bien, mais bon, en fait, c'est un jeu qui promet quand même quelques heures d'amusement. Je vais le continuer, je vais le faire. Okay. Mais rien de très extraordinaire. C'est un first-person shooter où tu tires dans le temps.
Et sinon, rapidement, y a-t-il quelque chose d'autre qui a attiré ton attention dans le domaine des jeux vidéo?
J'aimerais signaler aujourd'hui, justement, on parlait d'Ubisoft tout à l'heure, puis bon, j'ai un peu fait un copier-coller, mais je veux faire passer l'annonce où aujourd'hui, Ubisoft a lancé la seconde édition du défi interactif trop-d'imagination.ca qui a l'objectif de recruter 150 concepteurs. Donc, tu vas sur le site trop-d'imagination.ca et tu as la possibilité, avec quelques tests, là, si tu es bon, d'être recruté éventuellement.
C'est ça, c'est quand même une méthode originale de recruter des gens, là, des jeunes. En fait, ils ont effectué une série de tests. Mm-hmm. Comme ça,
il y a quatre tests d'imagination, de création. Enfin, je suis allée l'essayer, puis j'étais pas pire dans la mémoire et dans l'imagination, mais après ça, ça se gâtait un peu. Alors, j'invite tous les jeunes qui ont beaucoup d'intérêt dans le domaine d'aller l'essayer parce que, sait-on jamais, ça peut être quand même une bonne opportunité. Ils ont quand même 150 postes à combler.
Oui, puis c'est la même chose. Ça, c'est pour Ubisoft, mais il y a aussi Binox. Il y a plein de compagnies de jeux vidéo qui recrutent. Donc, les jeunes, dirigez-vous. C'est une carrière d'avenir. Dirigez-vous vers ça.
Exact.
Donc, sinon, bien, on va aller se quitter. Merci beaucoup, Sylvie Tapp.
Ça me fait plaisir, comme toujours.
Donc, tu reviens le mois prochain, probablement. Mm-hmm. Et sinon, on va écouter une pièce musicale d'un choix aléatoire de Sébastien Léonard.
Oui, vraiment.
OK, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale
mon petit bébé d'amour.
Et on se dirige maintenant vers les nouvelles insolites puissance maximale.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute puissance maximale.
Donc, en fin de semaine, dimanche, c'était aussi la parade des jouets. Donc, c'était donc les jouets et les dons à l'argent ont été ramassés par les pompiers de Québec et ils ont servi à gâter 800 jeunes qui étaient issus de milieux défavorisés. Et ça, ces jouets-là vont être redistribués le 9 décembre lors d'un événement évidemment en l'honneur de Noël, la fête des cadeaux, n'est-ce pas? Et il paraît que les organisateurs de la parade ont chiffré le nombre de participants à près de 100 000 personnes, mais ça n'a pas été confirmé par d'autres médias. Hein. Et donc, félicitations à la 6e édition de la parade des jouets. Et ça, c'était tiré de Cyberpresse, Le Soleil.
Là, ce n'est plus vraiment une nouvelle très insolite. C'est plus triste pour le titre de Megabrand MB qui vient de chuter de 30%, c'est-à-dire que ça correspond à une perte de 11 millions de dollars.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, dû à des fermetures d'usines. En fait, c'est tout simplement, ils viennent d'annoncer les résultats qui ont été qualifiés de fouillis par les valeurs mobilières des jardins, ce qui veut donc dire que, eh bien, Megabrand ne va pas très, très bien. Il faut rappeler aussi qu'il y a une grosse pression à l'heure actuelle des détaillants sur le titre de Megabrand, puisqu'on sait récemment à travers le Protégez-vous, dont on a présenté les résultats il y a de ça deux semaines, qu'ils étaient bien dans une espèce de tourmente médiatique autour de la présence de plomb dans leurs jouets. D'ailleurs, ça fait suite à une série de controverses qui éclaboussent un petit peu le milieu des jouets, puisque Mattel aussi a été obligé de faire revenir une 150 000 jouer à cause d'une petite pièce qui était défectueuse.
Ben justement, parlons-en de Mattel. En fait, au Canada, c'est 5500 exemplaires qui ont été retirés au Canada, mais c'est à travers le monde de Mattel. Là. En tout, effectivement, c'est 38 000 jouets qui ont été retirés en tout. Donc, c'était dans le jouet Go Diego Go Animal Rescue Boat de Fisher-Price. Donc, ils ont dû rappeler ces jouets-là à cause qu'évidemment, il y avait encore une histoire de jouets au plomb.
Puis, il y a toujours les histoires de jouets au plomb parce que si on se rappelle bien, c'était déjà Mattel qui avait eu le problème de la peinture au plomb qui venait de Chine. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas la Chine qui était en cause.
En fait, c'est Mattel qui a fait son mea culpa. Ils ont dit « c'est de notre faute
».
Et j'inviterais les gens à ne pas paniquer à cause des jouets au plomb.
Ne paniquez pas.
C'est seulement des cas isolés. Là. Donc, les jouets contaminés sont excessivement rares. Là. Achetez quand même vos cadeaux pour Noël et paniquez pas. Et donc, ces informations-là étaient tirées du comité de presse de la compagnie Mattel. Sinon, il y a aussi dans le domaine des jeux de rôle, n'est-ce pas, on n'a pas arrêté de jouer à des jeux vidéo, mais il se passe quand même des choses dans d'autres types de jeux. Donc, il y a la compagnie Drive-Thru RPG qui donne une douzaine de leurs titres gratuitement. Et ça commence aujourd'hui et ça va se terminer vendredi le 16. Et par exemple... on peut trouver sur le site Drive-Thru RPG la trame sonore du jeu Chronicles of Ramlar. On peut télécharger le jeu de rôle Spiritual Warfare de RPG Europe 1483, des Six Powers et plein d'autres. Il y a aussi Conan, Fading Sun, etc., etc. Allez voir le site Drive-Thru RPG pour avoir toutes sortes de jeux et même de la musique gratuitement. Et cette source-là, c'est Christian Lacroix, notre chroniqueur de GN, qui nous a envoyé ça. Sinon, maintenant, on se dirige vers l'agenda ludique de la semaine.
Ça faisait longtemps.
Effectivement. Ça fait toujours du bien d'entendre ça. Donc, comme à tous les lundis, on se dirige vers l'Astradamus sur la rue Couillard à Québec pour des jeux de plateau. Mardi, c'est évidemment les soirées Jeux de Go au Café Aga. Et en fin de semaine, vous vous dirigez vers l'Université Laval au sous-sol du pavillon La Certe, au club des Seigneurs de la Guerre, pour jouer à toutes sortes de jeux, n'est-ce pas, qui vous satisferont au plus profond de votre cœur. Sinon, je pense qu'on va se laisser là-dessus.
Eh oui, on se quitte déjà.
Vous pouvez aller voir pour le reste et pour réécouter les émissions puissancemaximale.com. Sinon, on se laisse avec l'émission Homologue et restez à l'écoute. It's the ending, fighting with the legends of yore. It's the ending. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins. Till the day we...
2, 3, 4, yeah!